Mr. Louis Armstrong.
Now, good evening, ladies and gentlemen. Listen at this.
Un été avec Armstrong. Épisode 3, Cold Cow Blues.
Ça, c'est un mélange entre un cornet et une trompette. C'est l'instrument sur lequel Armstrong jouait lorsqu'il était en foyer. C'est l'un de nos trésors. Il est longtemps resté au foyer, puis Peter Davis l'a apporté au musée en 1965, je crois. Il l'a offert au musée en présence de Louis Armstrong.
En deux mots, qui était Peter Davis?
C'était le superintendant du foyer.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Si vous vous rendez sur la page de l'émission, déjà ce sera une bonne idée. Et puis vous le verrez, ce vieil instrument auquel Greg Lamboussi, le directeur du musée du jazz de la Nouvelle-Orléans, que vous venez d'entendre, tient plus que tout. C'est le tout premier cornet qu'Armstrong a tenu entre ses mains. Alors c'est sûr, il ne paie pas de mine aujourd'hui, mais c'est une relique. L'instrument trône au musée, protégé par un rempart de plexiglas. Nous sommes en juin 1914. Armstrong ne va pas tarder à sortir du Colorado Waves Home for Boys, où il est détenu depuis janvier 1913. Il a gagné la confiance de Peter Davis, superintendant et responsable de l'orchestre de cette maison surveillée. Il raconte, Louis Armstrong, que certains dimanches, allongé sur son lit, il entend au loin le cornet d'un autre grand musicien de la Nouvelle-Orléans, Freddie Kepar. Quarante ans plus tard, Armstrong écrivait « Ces nuits passées dans le dortoir à sentir ce délicieux chèvrefeuille et à entendre le cornet de Freddy, c'était vraiment le paradis pour un gosse de mon âge. » Freddy Kepar, un peu invisible, un peu fondu dans le grand orchestre de Doc Cook en 1926. Après un an et demi passé en maison surveillée, le voilà dehors, Louis Armstrong. C'est le patron de son père qui s'est porté garant pour le faire sortir. Alors vous vous dites, enfin. Mais en fait, non. Louis voudrait bien y rester en maison surveillée. Il ne veut pas aller vivre avec son père, qu'il connaît à peine. Il n'a jamais vécu avec lui et n'a jamais vu sa belle-mère. Finalement, il rejoint Meian, sa mère. Il semble qu'il ait été une bouche à nourrir un peu trop pesante pour son père. Désormais, il doit trouver des petits boulots, parce qu'il faut bien faire rentrer l'argent à la maison. Un ami le rencarde. Il devra jouer du cornet dans une espèce de maison de passe. Tout ce que tu auras à faire, lui dit cet ami, c'est de mettre des pantalons longs et de jouer le blues pour les filles qui chahutent là-dedans. Et voilà la fiche de poste, en gros. Et c'est le premier emploi d'Armstrong qu'il doit avoir dans les 14 ou 15 ans.
Number 219 took my baby away. The 219 took my baby away. The 217 will bring her back someday. You take the T and P, and I'll take the L and N. Mama said you take the T and P, and I'll take the L and N. We got to be lucky, honey, to ever meet again.
Blues. Peut-être l'avait-il déjà à son répertoire à l'époque, vers 1914-1915, car c'était un thème très ancien, aussi connu et enregistré sous le titre Mammy's Blues. Ici, c'était en 1940, hein, avec Armstrong et ses compères Sidney Bechet et Zutty Singleton. Mais les pourboires qu'il touche avec cette activité dans les maisons de passe ne rapportent pas assez. Grâce à Gabriel, son beau-père préféré, il devient livreur de charbon et il cumule deux emplois, donc livreur de charbon le jour et joueur de cornet dans les maisons de passe en soir ou la nuit. Il a 15 ans, nous sommes en 1916 et il balade une voiture à bras chargée de charbon. Il s'en rappellera au moins jusqu'en 1925 lorsqu'il écrira Coal Cart Blues, le blues du chariot de charbon, ici enregistré avec Clarence Williams et sa clique.
Thank you. worry me all the time. These blues make you cry. Feel just like you wanna scream. Of course the cold cup of powder almost kill me up. But just to give it up was my cup. I've got those cold cup blues till I really don't know what to do.
Armstrong a encore beaucoup à apprendre, alors parfois King Oliver, son mentor, lui accorde une leçon de cornet, et en échange, eh ben, le petit Louis fait les courses pour le couple Oliver. Mais déjà, dans les grandes villes du Nord, comme New York, une musique se fait omniprésente. L'original Dixieland Jazz Band, un groupe de 5 musiciens de la Nouvelle-Orléans, enregistre ses premiers disques, livrés aux oreilles new-yorkaises au mois de mai 1917. C'est nouveau dans le Nord, tellement nouveau que les premiers essais d'enregistrement sont un échec, et l'orchestre a failli plier bagage sans faire le moindre disque. Alors certes, ils sont néo-orléanais, mais ils sont blancs et leur musique n'est pas exactement la même que celle des Noirs et des Créoles. David Cunyon, conservateur du musée du jazz.
Ce n'est certainement pas la même chose, mais c'est similaire. Quand vous écoutez l'original Dixieland Jazz Band, il y a une certaine excitation, une certaine puissance. Mais ce n'est pas aussi fluide, la rythmique n'est pas aussi complexe. Ce n'est pas aussi virtuose que ce qui sera fait ensuite. Lors des 7 années suivantes, vous vous rendez compte à quel point tout cela a progressé. Tout était déjà en place et l'original Dixieland Jazz Band a fait le job. Mais ce n'était pas tout à fait représentatif de ce qui se passait dans les quartiers afro-américains. La musique y était moins guindée.
Thank you. Cette musique, Armstrong a dû l'entendre bien avant qu'elle soit fixée dans la cire en 1917 et ça devienne un phénomène de mode dans les villes du Nord. À la Nouvelle-Orléans, King Oliver vient de lui confier une grande responsabilité, le remplacer deux soirs de suite dans l'établissement où il joue d'habitude. Le propriétaire, c'est Pete Lala, un mec exigeant, donc grosse pression pour le jeune Louis. Mort de peur, il joue le premier soir et à la fin, le coup près tombe. Le patron lui dit « Ne reviens pas demain, on fera sans cornet ». Ça, c'est un coup dur pour l'ego, mais Oliver a quand même donné à Armstrong le salaire des deux soirées. Armstrong doit continuer à s'entraîner, à jouer cette musique qui n'a pas encore de nom. Jazz avec un S ou deux S, jazz avec deux Z. Dixieland même, comme le nom de l'orchestre star de New York. Dixieland, c'est un mot péjoratif pour les gens du Sud, explique Michael White, professeur à l'université Xavier.
So to put this negative moniker on it, Dixieland is very insulting.
Affubler cette musique du terme négatif de Dixieland, c'est une insulte. Il y a des gens qui disent que Dixie, c'était le nom que l'on donnait à la Nouvelle-Orléans à une époque. Et alors ? Ben non. Dixie, c'est le vieux Sud, le Sud esclavagiste, et c'est très, très injurieux. Et aujourd'hui, on est en train de déboulonner les statues des généraux du Sud, et on se défait des symboles du Sud. Et moi, je crois que le terme Dixieland, il faut le déboulonner, lui aussi. Il faut parler du jazz de la Nouvelle-Orléans, la musique des Noirs, parce que le Dixieland, c'est une espèce de pâle imitation des Blancs. C'est pas la même musique, le son n'est pas le même, hein. Le ressenti n'est pas le même. Donc vous voyez, c'est complètement différent.
Mais à l'époque, vers 1917-1920, le terme Dixieland et toute la caricature qui l'accompagne sont utilisés à foison dans des sketchs et des chansons comiques, comme ici le duo Harlan & Collins, qui montre aussi que beaucoup ont été surpris par l'ampleur qu'a rapidement pris le jazz et qu'ils ne savaient pas par quel bout prendre cette nouveauté.
In what spot did you last, Henry?
Oh, in many ways, Mandy. Now, for instance...
Lordy, lordy, is that one of the ways?
Mm-hmm, and another is...
Is there any more, Henry?
Oh, yes, and it goes something like...
Your explanation am lucidiously comprehensible.
Come on, Sal.
Don't go.
Now I guess we're stepping. Come on, gal.
Come on.
Put a lot of pep in. We won't stop till we drop. Oh, pop. We're gonna do some dancing. You're so sweet.
Oh, Bill.
I'm a little flurried. Hurt your feet?
Feet still.
Yes, I'm a little hurried. Cause when I hear that music quick.
L'original d'Excellent Jazz Band connaît un succès fulgurant, part en tournée dès 1920 au Royaume-Uni. L'orchestre est imité avec plus ou moins de bonheur par des formations blanches comme celle d'Earl Fuller, l'original New Orleans Jazz Band, les Memphis Five ou encore ces Louisiana Five, des orchestres qui enregistrent tous à New York dès 1918-1920. C'est là que sont basés les studios des grandes marques hein, comme Columbia, Victor et même la branche américaine de Pathé. Écoutez, Slow and Easy, lent et simple.
France Musique, un été avec Armstrong, Florian Royer. Thank you.
Ils ont une manière différente de jouer. Il y avait toute une branche de jazzmen originaire de Sicile. C'est tout à fait légitime et c'est de la bonne musique. L'original Dixieland Jazz Band est à l'origine de tout ça. C'est toujours du jazz, mais c'est un peu différent.
Et ces Italo-Américains du jazz auxquels David Cunyon fait référence s'appelaient Dominic La Rocca ou encore Tonis Barbaro, les deux des musiciens de l'original Dixieland Jazz Band. Il y avait aussi Charles Panelli, le tromboniste, et encore Filippo Napoli qui lui a changé de nom pour devenir Phil Napoleon. Parallèlement, les orchestres noirs néo-orléanais essaiment à travers tous les États-Unis. Chicago deviendra leur base avancée, mais certains se retrouvent aussi en Californie. C'est là-bas, à Los Angeles, que l'orchestre de Kid Ory enregistrera le premier disque de jazz par un orchestre noir néo-orléanais. Alors ça, c'est toute une histoire, car pour dupliquer ces disques, il a fallu les emmener ensuite jusqu'à New York et donc traverser tout le pays en train ou en camion sous des chaleurs accablantes. Arrivé à New York, les matrices ont sûrement dû être un peu tordues, et c'est pourquoi de ces tout premiers disques gravés en 1922 sur la côte ouest à Los Angeles, eh bien, il ne reste pas grand-chose, seulement quelques exemplaires qu'on a pu sauver de ces matrices à moitié détruites. Un autre musicien néo-orléanais s'est installé sur la côte californienne à l'époque, Ernest Coico, alors beaucoup moins connu que Kid Ory, complètement inconnu même. Il grave aussi un disque à peu près au même moment, 1922, peut-être début 23. Kid Ory et Coico sont les pionniers dans le genre. Alors si le disque de Kid Ory a largement été réédité grâce aux quelques exemplaires qu'on en connaît, celui de Coico ne l'a jamais été, ou quasiment jamais. Il n'en existe qu'une douzaine d'exemplaires dans le monde. En voici un plutôt. What a Wonderful Time, par les California Poppies, avec Ernest Coico. Thank you.
J'espère que vous avez savouré ce morceau What a Wonderful Time par les California Poppies avec ce clarinettiste un peu fou à la fin, car c'est un disque que vous n'êtes pas prêt de réentendre, sauf si bien sûr vous vous rendez ensuite sur la page de l'émission. Pour Armstrong, le temps de quitter la Nouvelle-Orléans n'est pas encore venu et les temps sont durs. Les États-Unis sont entrés en guerre en 1917, donc fini les dancing, fini les théâtres, tout est fermé. Les seuls moments où l'on peut encore travailler pour les musiciens, c'est lors des fameuses parades funèbres qui, elles, ne s'arrêtent pas. Trop jeune pour s'enrôler malgré une tentative de resquille, Armstrong ne prend pas part au combat. Pour assurer une rentrée d'argent, il travaille aussi au déchargement des bananes dans les entrepôts tout en conservant son emploi de charbonnier. Vraiment, les temps sont durs pour le jeune Louis. Un petit rayon de soleil néanmoins en mars 1918 lorsqu'à 17 ans, il épouse Daisy Parker qui ne doit guère être plus âgée que lui et qui collectionne aussi les aventures. Plusieurs biographes la présentent comme une prostituée mais aucun témoignage direct ne permet de le confirmer. C'est le début d'une union ombrageuse dans un couple qui n'a pas un sou vaillant. Et d'ailleurs, au début, eh bien, ils habitent tous les deux avec la mère d'Armstrong, Mayan.
Oh, I can't give you anything but love. Baby, that's the only thing I've plenty of. Baby, dream wild, scheme wild, you should find all the happiness. And I guess all those things that you have cried for, baby. Gee, I'd like to see you looking swell, baby. Baby, diamond bracelets would work just themselves. Oh, baby, baby, till that lucky day, you know darn well, baby, I can't give you anything, love.
Armstrong assure des remplacements dans plusieurs orchestres de la ville au gré des départs de chacun. De plus en plus de musiciens plient bagages, attirés par les possibilités d'engagement dans les autres villes plus au nord. Kidori, on l'a dit, Emmanuel Pérez, Alcide Nunez, les frères Dodds, Johnny et Baby. Tout cela, Louis les retrouvera bientôt. Même King Oliver va succomber aux sirènes de Chicago en 1919. En fait, de sirène, c'est surtout le sifflet des bateaux que Louis entend, les fameux bateaux à aube qui embarquent les voyageurs pour des excursions tout le long du Mississippi. C'est la première fois que Louis s'éloigne autant et si longtemps de sa ville natale, comme il le racontait à la radio française en 1952 au micro de Mireille.
When I left New Orleans, I was on the riverboats Ah bon, you played on riverboats.
On the riverboats.
Quand vous avez quitté la Nouvelle-Orléans, vous jouiez sur des bateaux.
Yeah. From 1919 to 1921, I played on the riverboats.
Oui.
And I went back to New Orleans.
Oui.
And I played in Kid Ory's band.
Je suis revenu à la Nouvelle-Orléans. J'ai joué avec Kid Ory, puis j'ai rejoint King Oliver.
Joe Oliver, King Oliver, the trumpet of the king at
yes.
that time.
Encore après, j'ai été embauché par Fletcher Henderson dans son grand orchestre.
Yes. And I went with Fletcher Henderson.
Fletcher Henderson.
In New York with the big band.
L'orchestre de Fate Marable que vous venez d'entendre était la formation attitrée d'une prestigieuse compagnie de bateaux qui organisait des croisières sur le Mississippi. Alors dans ce disque Frankie and Johnny, enregistré en 1924, Armstrong ne faisait déjà plus partie de la formation, mais cela donne une idée du son qu'elle pouvait avoir. De la Nouvelle-Orléans jusqu'à Saint-Paul dans le Minnesota, les navires remontaient des centaines de kilomètres. Louis n'était jamais allé aussi loin. Il découvre des villes comme Memphis, Davenport, Saint-Louis. Le chef Fate Marable fait régner une discipline de fer parmi ses musiciens, mais c'était aussi une école incontournable qui a vu passer, outre Armstrong, les frères Dodds, le contrebassiste Pops Foster ou encore le batteur Sooty Singleton. Armstrong ne lit pas encore très bien la musique, alors à chaque nouveau morceau, un collègue cornettiste lui joue le thème et Armstrong le retient, le joue de mémoire et commence déjà à ajouter des petits trucs à lui. Tous les musiciens de la Nouvelle-Orléans avaient la plus grande estime pour Fate Marable, écrit Armstrong dans ses souvenirs. Quitter la Nouvelle-Orléans, pour lui, c'est aussi l'occasion d'écouter d'autres artistes, d'autres styles de musique. Memphis a des joueurs de blues bien différents de ceux de la Nouvelle-Orléans ou du Mississippi profond. Le jeu de guitare est plus doux, il s'appuie moins sur des glissandos furieux. Furry Lewis, Gus Cannon ou encore celui-ci, Frank Stokes, en sont les ambassadeurs. Peut-être qu'Armstrong, en escale pas loin, les a entendus vers 1919 ou 1920.
France Musique, un été avec Armstrong, Florian Royer.
Well, my old lady took and wrote me a letter. She told me you might treat me better. No, my business but mine. Now you wrote the letter, ain't you wrote ten A's. If you're gonna do better, guys, you better make A's. Ain't no my business but my own. It ain't nobody's business, honey. Where I'll find my money, nobody's business but mine. It ain't nobody's business, kid. Who in the world do my business with? Not ain't nobody's business but my own. I laid my head set just between them, for the world I had never seen them, ain't no my business but mine. I ain't got roots, ain't got no comb, four out about, ain't got no home, it ain't no my business but my own. It ain't nobody's business, honey. Why in the world I find my money? No my business but mine. It ain't nobody's business, honey. Why in the world I find my money? No, my business but my own. I said, baby, you oughta been told me 14 years before you wrote me, so I'd have a mother a place to go. Now, baby, you oughta been told me 14 years before you wrote me, so I'd have a mother a place to go. It ain't nobody's business, kid. Why in the world I got my money hid? Ain't nobody's business but mine. It ain't nobody's business, honey. Why in the world I find my money? Nobody's business but my own. That's business, baby. Nobody's business, baby. Business but mine. Nobody's business, honey.
Et encore plus en amont, c'est le jazz de Saint-Louis dans le Missouri, totalement différent de la Nouvelle-Orléans, peu marqué par la tradition funéraire et déjà plus urbain. Ici règnent Dewey Jackson et Charlie Chris, rois musiciens des nightclubs de Saint-Louis à la tête d'orchestre réputé. Parfois, ils piquent même un musicien néo-orléanais qu'ils trouvent bon et qui est de passage sur un des bateaux et qui reste à Saint-Louis plusieurs mois ou plusieurs années. Par exemple, Charlie Chris a mis la main sur le trombone Albert Wynn dans ce Butterfinger Blues 1926.
Thank you.
des centaines de kilomètres de là, à la Nouvelle-Orléans, Daisy, l'épouse d'Armstrong, attend des mois que monsieur revienne. À peine mariés, les deux qui n'ont même pas 20 ans vivent déjà loin l'un de l'autre. Surtout qu'elle n'est pas seule, Daisy. Il y a Clarence. Clarence, c'est le fils d'une cousine de Louis, morte en couche et adoptée par le couple Armstrong. Un enfant diagnostiqué à l'époque déficient mental après un accident survenu dans ses premières années. Durant des décennies, les historiens ont cru que Clarence avait été l'unique enfant d'Armstrong. Mais...
My name is Sharon Preston Falter. And I am Louis Armstrong's daughter, his only child. I have waited my entire lifetime to say that publicly.
Je suis Sharon Preston Falter, la fille de Louis Armstrong, son unique enfant. J'ai attendu toute ma vie pour le dire publiquement. Ça, c'est une information, c'est pour plus tard. Mais en préparant cette série, nous sommes tombés, vous le verrez, sur quelques surprises que vous découvrirez épisode par épisode. Nous sommes vers 1920-21. Daisy doit s'occuper du petit pendant qu'Armstrong fait ses saisons sur les riverboats. L'hiver, le fleuve n'est pas navigable. Il rentre et joue avec les orchestres de la Nouvelle-Orléans. Mais durant ces longues périodes, Daisy devait être un peu lasse, même si la mère d'Armstrong l'aide dans la vie quotidienne.
I want cake when I'm hungry, lightning when I'm dry. Cake when I'm hungry, lightning when I'm dry. And some good men to love me, heaven when I die. Nobody wants you when you're struggling all alone. Nobody wants you when you're struggling all alone. But when you find someone, they will wreck your happy home. Oh, step on now, pay me, tell all about it. Yeah, that's what I'm talking about. Long time. Show. Good Lord sets up in heaven above. Just to show. Good Lord sets up in heaven above. You know your life ain't worth living if you can't be with the one you love. Well, I'm going away to leave you at a big bed all alone by yourself. Going away to leave you at a big bed all alone by yourself. Baby, just like I love you, I'm learning to love somebody else. That's what I'm talking about.
La lassitude, chantée ici par Memphis Minnie et qu'a dû ressentir bien souvent Daisy Armstrong, même si l'entente au sein du couple n'est pas au beau fixe, d'ailleurs ils se tapent dessus mutuellement. De toute façon, le musicien ne tient plus en place, il n'attend qu'une chose, c'est d'aller se faire connaître plus loin. Tout le monde part de la Nouvelle-Orléans, enfin presque tout le monde. Dans le Nord, d'autres blancs néo-orléanais ont formé un orchestre, les New Orleans Rhythm Kings, qui préfigure déjà le style de Chicago qui fera fureur vers 1926-27. Les marques de disques ouvrent grand leurs portes à ces colporteurs d'une musique qui se vend si bien.
Mmh.
les New Orleans Rhythm Kings. Et puis, dans les grandes villes, il n'y a pas que les orchestres de danse. Il y a les formations qui accompagnent les films muets, par exemple, ou alors les spectacles en tout genre. Et puis surtout, il y a plein de vocalistes à accompagner. Des chanteuses de blues, des musiciens, des comédiens de vaudeville. Alors, pas tous très bons, pas toutes très au point, mais pas grave, au moins ça marche bien. Depuis que Mamie Smith a enregistré le premier blues chanté en 1920, les studios cherchent des musiciens capables d'accompagner celles qui seront les futures divas du blues. Et ça, Armstrong va en manger de l'accompagnement, en partie sous la férule de Clarence Williams, qui justement accompagne cette certaine, non, elle est déjà connue, Bessie Smith dans ce qui est son premier disque. Encore attendre un petit peu, là on était en 1923-1925 pour que Louis ait la chance à son tour d'accompagner la grande Bessie. Depuis 1919, King Oliver est à Chicago, il a formé son orchestre et tourne parfois jusqu'en Californie. Alors comment a-t-il joint Armstrong, Louis, en Louisiane, avec une lettre, un télégramme, en tout cas pas par téléphone, puisque Armstrong n'est pas relié au réseau. En 1922, le King, son mentor, le fait enfin venir à Chicago pour le job de deuxième cornet dans son Creole Jazz Band. Là encore, c'est une lettre qui change la face du monde et du jazz.
My, 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 my. Listen to that rhythm train, boy.
Boy, I bet all them hobos are all set under them rods. Even only number one and all them cats. Yeah, man. All aboard for Pittsburgh, Hattiesburg, all the boys. Oh boy, you can't ride this train. Boy, I'm the brakesman, and I'm a tough man. I ain't joking. You can ride this train. Hey, hobo, lift your hobo. Boy, you can ride this train. Yeah, man. Yeah.
C'est sûrement en train qu'il est monté à Chicago, Armstrong. Chicago, une nouvelle ville à conquérir pour le jeune Louis, et ce ne sera pas facile. En tout cas, le trajet de la Nouvelle-Orléans jusqu'à Chicago est plutôt long pour celui qui débarque de son sud profond. Le trajet doit au moins faire 24 heures, le temps donc pour lui de voyager. Nous, on se retrouve demain à 18 heures. Il est quasiment 19 heures sur France Musique et c'est l'heure de retrouver Jazz Ladies au sommet avec Alex Dutille.